pour que le Seigneur parle à nos cœurs. C'est important de se tenir dans la prière, nous le ferons, nous le faisons régulièrement. Et c'est aussi important pour nous d'ouvrir la parole, que la parole soit toujours mise en honneur dans nos vies et au milieu de nous, car sans elle, sans cette parole, où serions-nous ? Et nous voulons fonder notre vie sur cette parole. On va retourner dans le livre du prophète Ézéchiel. Vous rappelez que la semaine dernière, nous avions vu un texte dans Ézéchiel, chapitre 47. Et aujourd'hui, on va lire un autre texte dans Ézéchiel, à partir du chapitre 36 et verset 33. On va lire jusqu'au milieu du verset 37, chapitre 37, excusez-moi, donc 36-33. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes, les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu, et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël, voici ce que je ferai pour eux, je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes. Pareil au troupeau consacré, au troupeau qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair et je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël, voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Ce matin, au travers de ce texte que nous avons lu ensemble, j'aimerais parler, et c'est en titre, de la grâce du relèvement. La grâce du relèvement. Nous avons vu la semaine dernière ce chapitre extraordinaire d'Ézéchiel 47 avec ce torrent qui a porté l'abondance et la vie partout où il passait, jusque dans la mer morte, qui jusqu'alors était morte, mais qui est devenue vivante avec pleine de vie à l'intérieur d'elle-même. Ici, avec ce chapitre que nous avons lu, avec ce passage que nous avons lu, nous y voyons la grâce du relèvement. Et c'est vrai qu'à partir du chapitre 33 de ce livre d'Ézéchiel, le ton va changer dans ce que Ézéchiel va annoncer. Le peuple d'Israël, je rappelle, est en captivité, la situation d'Israël est terrible. Le peuple qui est en Babylonie est captif dans des camps de réfugiés, dans des camps d'exilés, dans des camps de captifs. Et puis les plus pauvres du pays ont été laissés à Jérusalem, dans le territoire d'Israël, mais la ville a été rasée, la ville a été détruite, et nous le voyons dans ce chapitre 36. Eh bien, les ruines sont là, et cette terre est dévastée, ces villes sont ruinées, désertes et abattues. Mais ces villes qui étaient désertes, ces villes qui ont été ruinées, ces villes qui ont été dévastées, détruites, vont être tout à nouveau repeuplées. Et il y a même cette image que Dieu donne, « Je multiplierai les hommes comme un troupeau ». Alors que c'est la désolation, tout espoir est perdu, Dieu va amener quelque chose de nouveau. Le jugement sur Israël a été radical, et pourtant c'est pas faute de les avoir avertis pendant des années, que dire même des décennies, Dieu a averti son peuple. Et puis, morceau par morceau, on voit que ce peuple a été grignoté, son territoire a été absorbé peu à peu, et jusqu'à cette prise de Jérusalem par l'Empire babylonien qui va imposer sa loi sur tout le territoire d'Israël, mais aussi sur plusieurs nations alentour. C'était l'empire dominant de l'époque, et au travers de ce qui s'est passé, il y a eu un jugement sur Israël. Et après un certain temps de désolation où toute fausse espérance va disparaître, il y aura cette grâce du relèvement. Mais il faudra un temps, et cela ne viendra qu'à partir du moment où tout faux espoir sera disparu. Car ils ont même dans ces moments-là, même ceux qui sont en captivité en Babylonie et ceux qui sont restés en Israël, ils avaient encore quelques faux espoirs. Mais ces faux espoirs-là ne pouvaient pas tenir, ne pouvaient rien leur donner de concret. Dans cette vision, et nous pouvons passer à la diapositive suivante, dans cette vision, nous voyons une vallée qui est vraiment, une vallée de désespoir et de mort. On a là une scène qui serait digne de certains films d'horreur qui existent. On a là une scène où Ézéchiel, le prophète, voit des ossements partout dans la vallée qui sont éparpillés, et il y en a en grand nombre. Et ces ossements humains, sont complètement secs. Ça ressemble à un champ de bataille. Ça ressemble à un champ de bataille où les corps, après avoir combattu, les corps qui sont morts, seraient restés sur place. Personne ne les aurait enterrés et ces corps se seraient décomposés, seraient restés là des mois, des années, seraient devenus complètement secs sans que personne ne puisse les enlever ni les enterrer. Israël avait encore quelques faux espoir, un dernier faux espoir qui va lui être ôté. Et ce faux espoir qui va lui être ôté, on le voit au chapitre 33, C'est par rapport à leur histoire, car ils se disaient, même en captivité, ils se disaient même ceux parmi les plus pauvres qui étaient restés en Israël, leur dernier espoir, ils se disaient, si Abraham, qui était tout seul, a hérité de ce pays, Abraham, en fait, effectivement, était tout seul, il a reçu une promesse, et par un seul homme, une nation entière est venue. C'était leur dernier espoir. Il dit, si lui tout seul a hérité le pays, nous qui sommes plusieurs, n'hériterons pas nous du pays? Ne retournerons pas nous en Israël? Ils avaient encore cet espoir-là. Mais Dieu leur apprend, Dieu leur montre avec évidence, quoi, vous habiteriez le pays alors que vous êtes des hommes perverses, méchants, et qui fait des choses abominables, il n'en sera pas ainsi. Dieu leur enlève ainsi cet espoir qu'ils avaient. Et si Dieu leur enlève ce dernier espoir, c'est qu'il veut qu'on reconstruire quelque chose. Il veut reconstruire quelque chose. Plus d'espoir. Et c'est peut-être aussi ce que nous pouvons vivre selon les situations que nous avons les uns et les autres par les différents événements qui peuvent nous arriver. On a peut-être encore quelques espoirs, mais ce sont nous, bien souvent, qui nous créons ces espoirs-là. On s'imagine des choses, on va s'en sortir comme les autres fois. On essaye de se raisonner, de s'encourager soi-même. Mais ça ne fera rien. Ça n'y fera rien. Sans la grâce de Dieu, sans la grâce de Dieu. On va en parler. On va passer à la diapositive suivante. Faut bien se dire qu'il y a eu 70 ans de captivité, les eaux étaient vraiment complètement secs. Complètement secs. Les morts ne venaient pas juste de mourir. Le temps avait passé, les années avaient passé. Jérémie, bien avant Ézéchiel, avait déjà annoncé cela. Il leur avait dit, mais bâtissez des maisons parce que vous allez, la captivité, elle va durer longtemps. Les eaux étaient complètement secs. Qu'est-ce que cela évoque pour un Israélite? Pour un Israélite, cela évoque le siège de la force vitale. Et c'est pas pour rien que Dieu montre cette vision au prophète Ézéchiel. Il pouvait comprendre, non seulement lui, il pouvait comprendre, mais ce message est adressé au peuple d'Israël. Lisons par exemple dans le psaume 32, le psaume 32, dans les psaumes, il est plusieurs fois question des eaux. Psaume 32, lisons le verset 3, un psaume de David. Tant que je me suis tu, mes eaux se consumaient, je gémissais toute la journée. On voit bien ici ce que représentent les eaux pour David. Lisons encore un autre passage dans le psaume 51. Psaume 51, ce psaume a été écrit par David. C'est un psaume de confession, un psaume de repentance. Lorsque Nathan, le prophète, est venu vers lui pour le dénoncer, parce que David avait commis une chose abominable. Et Nathan, le prophète, va aller trouver David. Et suite à ce que Nathan, le prophète, va lui dire, David va se repentir profondément. Et on va pas lire en entier ce psaume, mais au verset 10. Après que David ait confessé son péché au début du psaume, et il dira au verset 10, « Annonce-moi l'allégresse et la joie. » Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. David est brisé par ce qu'il a fait. Il est brisé. Il est brisé par la parole prophétique que Nathan lui a adressée. Selon la loi de Moïse, il faut bien se dire qu'un adultère et un meurtrier, c'est ce qu'était David. David, cet homme de Dieu, a été adultère et meurtrier. Pas rien. Et selon la loi de Moïse, qu'est-ce qu'on faisait à ces hommes-là? Ils devaient être lapidés. David n'a pas été lapidé, j'allais dire, son poste de roi l'a épargné de cela. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un jugement. Il y a eu un jugement sur lui, sur sa famille, qui a été terrible. Parce que, quand on analyse un peu la situation, son enfant qui va naître de Bathsheba va mourir. Mais on voit aussi qu'il y a eu des répercussions de sa faute avec son fils Absalom qui a couché avec les propres femmes de son père David. Et tout ça était une conséquence de ce que David avait pu faire. C'est terrible. Mais David se laisse saisir par la parole de Dieu qu'il a reçue par le prophète Nathan et il va profondément se repentir et Dieu va lui faire grâce. Dieu va lui faire grâce, ses os sont brisés, mais il dira ceci, annonce-moi l'allégresse et la joie, parce que David sait que Dieu peut le rétablir, que Dieu peut le relever. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. On pourrait lire d'autres textes, on va lire le Proverbe 3, Proverbe 3. Ne sois point sage, verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, car ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Un rafraîchissement pour tes os, crains l'Éternel. Ce sera un rafraîchissement pour tes os. Et puis peut-être un dernier texte, il y aurait d'autres textes, mais dans Ésaïe 66, verset 14. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère sur ses ennemis. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie, vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. Il suffit qu'on arrose l'herbe, elle reprend de la vigueur. Elle était peut-être en train de sécher à cause du manque d'eau, mais elle reverdit, l'herbe reverdit à ce moment-là. Tout ça pour dire que si Dieu prend cette image de ces ossements qui sont complètement secs, c'est que ça évoque quelque chose. C'était donc le siège, considéré comme cela, en tout cas le siège de la force vitale, mais maintenant il n'y a plus aucune énergie, il n'y a plus aucune force vitale, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tout cela. Leur espérance a été anéantie. Ils se trouvent sans force. Et c'est la situation dans laquelle Israël était à ce moment-là, situation dans laquelle nous pouvons, à titre individuel, nous retrouver, nous aussi, mais peut-être aussi, parfois, à certains moments de sa vie, l'Église, dans son sens communautaire du terme, peut se retrouver aussi dans cette situation-là. Alors il y a une question du Seigneur. Il y a une question du Seigneur. On peut passer à la diapositive suivante. Cette question, nous la trouvons au verset 3. Ces os pourront-ils revivre? Ah. Imaginez-vous un instant que vous soyez dans les catacombes à Paris. C'est un peu la même image. Bon, c'est souterrain. Là, c'est une vallée. Mais dans les catacombes à Paris, qu'est-ce qu'on trouve? Des squelettes partout. Hein. Et pas en petit nombre, en grand nombre, comme dans cette vision que le Seigneur donne à Ézéchiel. Et que vous soyez dans les catacombes de Paris, et que vous voyez tous ces crânes, tous ces tibias, ces fémurs un peu partout, là. Complètement secs, eux aussi. Et que le Seigneur vous pose la question, est-ce que ces os pourront revivre? Hein. ne sont pas morts hier. Hein. Ils ne sont pas morts il y a quelques heures. Il y avait déjà eu des résurrections dans l'Ancien Testament. Quelques-unes. Par exemple, du temps d'Élie, et sous le ministère d'Élie, il y a eu une résurrection, mais l'enfant en question était mort depuis quelques heures seulement. Il y a eu aussi une résurrection avec le prophète Élisée, mais pareil, il n'y avait pas longtemps qu'il était mort. Puis quand on regarde dans les évangiles, la plupart des résurrections sont faites quelques heures après la mort. Le seul cas qui dure un peu plus longtemps, c'est celui de Lazare. Bon, il était mort depuis 4 jours. Mais ses os n'étaient pas complètement secs. Et il commençait à se décomposer, il sent déjà, dira même ses sœurs. Donc c'est vrai qu'on comprend la réaction de Marthe aussi quand Jésus lui a parlé. Pour autant, ça faisait que 4 jours. Mais par contre, là, ils sont morts depuis longtemps. Hein. Les os sont complètement secs et cette question est posée. Ces os pourront-ils revivre ? Dieu est un Dieu extraordinaire. Il est le Dieu de l'impossible. La réponse d'Ézéchiel, on pourrait penser qu'Ézéchiel se mouille pas de trop. Il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Bon, on peut se dire, voilà, il ne se mouille pas de trop là. Même Ézéchiel semble quand même interpellé. C'est humainement tout à fait impossible. C'est humainement tout à fait impossible. Ramener à la mort quelqu'un qui vient de mourir, bon, à la rigueur, s'il n'y a pas juste quelques minutes, on peut essayer de faire un massage cardiaque, etc., pour essayer de faire repartir la machine. Mais là, c'est vraiment, humainement, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Et la seule chose qui nous reste, c'est de lever les yeux vers le Seigneur. Car en fin de compte, nous savons qu'il est le Dieu de l'impossible. Tous nos efforts sont voués à l'échec. Nous ne pouvons pas nous-mêmes essayer de ramener la vie là où il y a la mort. On ne peut pas. Le seul qui peut le faire, c'est le Dieu de la vie. Celui qui est la vie. Jésus le dira bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui peut ramener à la vie, c'est le Seigneur. Lorsque Jésus va revenir, les morts en Christ ressusciteront. Ceux qui viennent de mourir. Mais il y en a qui sont morts depuis plus de 2000 ans. Hein. On ne voit même plus les squelettes là. Hein. Ils ont disparu. Ils sont retournés vraiment, c'est de la poussière maintenant. Hein. Et pour autant, on voit là, ça nous dépasse. Ces hommes et ces femmes qui sont morts il y a depuis des centaines d'années, des milliers d'années, vont ressusciter, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors qu'on ne voit même plus leurs squelettes, ils sont vraiment très secs. Dieu est celui qui ramène à la vie ce qui est mort, que son nom soit glorifié. Et s'il peut le faire, tout à l'heure, notre frère disait, ce qui peut le plus peut le moins. Et s'il peut le faire dans cette occasion-là, ne croyons-nous pas qu'il peut ressusciter en nous ce qui est mort ? Que toute notre espérance qui est détruite, ne peut-il pas la refonder, la faire ressortir de terre, alors que nous pensons, nous, qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est voué à l'échec ? Dieu est tout-puissant, alléluia, pour le faire. Que son nom soit béni. On peut passer à la diapositive suivante. Et il va se passer quelque chose, c'est que Dieu va former ou reformer, comment le formuler, un corps qui pour l'instant sera inanimé. On va y revenir après. Il ne va pas rester animé parce que la vie va venir. Mais pour l'instant, c'est la formation d'un corps inanimé, c'est la première étape du relèvement, de cette grâce du relèvement. Qu'est-ce qui va se passer ? Le prophète est invité à prophétiser sur ses os. Donc voilà l'efficacité de la parole de Dieu qui vient de l'Esprit. Cette parole qui est soufflée par l'Esprit, cette parole qui est ointe par l'Esprit. Et il nous faut prier, nous aussi, pour que cette parole que nous lisons là devienne vivante dans nos cœurs, afin qu'elle produise son effet dans nos vies. Dieu parle et la chose arrive, que son nom soit glorifié. Qu'est-ce qui se passe ? Quand Jérémie, quand Ézéchiel le prophète prophétise, il va commencer à y avoir un bruit, un mouvement qui est là. Il va se faire un mouvement. Il y a un frémissement de quelque chose et là les eaux vont commencer à se rapprocher. Mais on s'imagine être à la place d'Ézéchiel. Je ne sais pas vous, mais imaginez, il y a des crânes partout, des tibias, des fémurs, des phalanges, etc. Les os sont complètement secs, des bassins. Tout ça, c'est en train de bouger. Hop ! Les os se rapprochent les uns des autres, se recollent les uns aux autres. Waouh ! Ok. Ces os qui sont la charpente du corps, charpente intérieure du corps. Et à partir du moment où Dieu commence à agir, à nous rétablir, à nous relever, et c'est une grâce, j'insiste là-dessus, parce que Dieu n'est pas obligé de le faire. C'est parce qu'il nous aime qu'il le fait. Et il nous fait cette grâce. À partir de ce moment-là, il y a comme un frémissement qui est en train de se faire. Il y a comme un mouvement qui est là et qui nous interpelle et qui nous fait penser que Dieu est en train d'agir. Et on voit dans nos vies, parfois, il y a comme un mouvement qui est là. Il y a des choses qui commencent à s'imbriquer les unes dans les autres et il y a un rapprochement qui se fait. Et ce rapprochement, il nous interpelle aussi par rapport à l'Église. Ne sommes-nous pas, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 12 et dans d'autres passages, que l'Église est le corps de Christ et que nous sommes tous les uns et les autres membres de ce corps, chacun pour sa part, différents les uns des autres, comme les os sont différents les uns des autres, mais ensemble ils forment le corps. Ce corps qui peut être disloqué, ce corps qui peut être complètement sec, qui est là. Jésus est la tête de ce corps, la tête de l'Église. Alléluia. Et voilà que là où il n'y avait plus de vie, où il n'y avait plus aucun espoir, les os, les membres commencent à se rapprocher les uns des autres. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est toujours extraordinaire lorsque les frères et sœurs en Christ se rapprochent les uns des autres. Quand ceux qui étaient disloqués, séparés, maintenant se rapprochent les uns des autres. Après cela, parce que tout ça, il faut que ça s'articule quand même. Il y a les nerfs. Les nerfs, il leur vint des nerfs, verset 8, il leur vint des nerfs. Les nerfs sont là. Alors, je ne suis pas anatomiste, médecin, c'est pas mon rayon. Le peu que je sache, c'est que les nerfs nous donnent de la sensibilité. Ils sont utiles pour les articulations, pour injecter les commandes nécessaires qui viennent du cerveau, passent par la moelle épinière, enfin voilà. Ça donne de la sensibilité. Ceux qui ont des sciatiques le savent, ils ont mal parfois jusqu'au talon, mais en fin de compte, ce n'est pas le problème du talon, c'est le problème du dos. Oui, c'est parce que les nerfs communiquent. Israël, qui avait perdu toute sensibilité, qui était devenu indifférent à l'Éternel, indifférent à la crainte de Dieu, indifférent au péché, qu'on pêche pas, qu'importe. Faisons ce qu'on a envie, commettons toutes les abominations, les méchancetés que l'on veut, qu'importe. Ils étaient devenus insensibles à cela, insensibles à la présence de Dieu. Maintenant, ils vont devenir sensibles. Ce qu'ils vont faire va créer une sensibilité. Et parce que la parole de Dieu a un impact en nous, nous ne sommes pas insensibles. Déjà à la présence de Dieu, à la sainteté de la présence de Dieu au milieu de nous, insensible aussi, nous ne le sommes pas face à ce que nous pouvons dire, à ce qui sort de notre bouche, à ce que nous faisons. Et parfois, nous ne sommes pas fiers de nous-mêmes. Et heureusement qu'on n'est pas fier de nous-mêmes. Ça prouve que quand même, on est encore sensible à la qualité de notre vie chrétienne. Donc les nerfs vont là, ils vont venir. Et puis, bien sûr, après cela, il y a la chair, les muscles nécessaires qui vont donner de la force au corps, et puis la peau. Ces précisions ont chacune leur importance. La peau est là. La peau, c'est ce qu'il y a de commun à tout le corps. On la trouve de la tête aux pieds, elle est partout. C'est un membre du corps qu'on trouve partout, qui couvre tout le corps. Et nous avons besoin, nous aussi, d'être recouverts de peau. C'est une protection naturelle que Dieu nous donne. La peau a multiples fonctions. Et sans peau, on ne serait pas beau. Hein. Merci Seigneur. Ça donne aussi une beauté au corps humain. Elle sert à plusieurs choses, la peau. Je crois que c'est important que nous soyons couverts par l'amour du Seigneur Jésus-Christ les uns les autres. Alléluia. C'est ce qui nous rend beau, l'amour de Jésus. C'est ce qui nous rend beau. C'est ce qui nous protège avec toutes les fonctionnalités de la peau. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le corps, jusque-là, et nous le voyons quand nous lisons le texte, reste inanimé. Le corps reste inanimé. Nous pouvons. Le corps reste sans vie. Il est reconstitué, mais il reste sans vie. Et là, maintenant, nous sommes à la deuxième étape du renouvellement. Il n'y avait point d'esprit en eux, est-il dit au verset 8. Le corps est bien reconstitué. Ça me fait penser quand même à quelque chose, je ne sais pas vous, mais quand on lit la Genèse, lorsque Dieu a formé Adam de la terre, il l'a formé, mais il n'a pris vie qu'à quel moment ? Lorsque Dieu a soufflé en lui. Il n'a pas pris vie avant. C'est-à-dire que avant cela, on pourrait dire que l'homme ressemblait à une statue de terre, voilà, qui était là, mais il n'y avait pas de vie encore. Il faudra que l'Esprit de Dieu vienne, et là, c'est ce qui s'est passé aussi. C'est ce qui s'est passé. Le corps est reconstitué dans son entièreté, mais il n'y a pas de vie, donc Dieu va faire entrer en eux son esprit et ils reprirent vie. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu es celui qui te plaît dans la communion fraternelle. Et ça, c'est la constitution du corps de Christ, de l'Église, la communion fraternelle. Et c'est ce que Dieu fait, la communion fraternelle. C'est son œuvre. Et dans cette communion fraternelle, eh bien, il met son esprit. J'y vois aussi là le psaume 133. Le psaume 133. On connaît bien ce psaume, on le chante même. On le connaît par cœur, mais ce psaume 133, il est dit ceci. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ils sont ensemble. C'est la communion fraternelle qui est là. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie. Alléluia. La vie pour l'éternité. C'est là. Le corps est reconstitué, il n'y a pas encore la vie. Mais le Seigneur va envoyer son esprit pour donner la vie. Et dans la communion fraternelle, c'est là que Dieu envoie la vie. Il constitue son Église. Il avait constitué, j'allais dire, la première équipe, les premiers disciples après sa résurrection. Mais au jour de la Pentecôte, il va souffler de son esprit sur eux. Et ce corps, ce premier corps, j'allais dire, va prendre vie. Et l'Église va connaître une expansion phénoménale. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie et pas autre chose. Et nous voulons vraiment demander au Seigneur que ton Esprit nous vivifie pleinement. C'est la deuxième étape de cette grâce du relèvement. J'accélère un peu, le retourne. Nous passons à la diapositive, la dernière. Il reste quelque chose qui est intéressant à noter dans ce texte. C'est qu'il y a des tombeaux, il est parlé de tombeaux, alors qu'au départ, les ossements sont dans cette vallée. Ils sont dans cette vallée. Ils sont éparpillés dans la vallée. Là, les ossements se sont rapprochés, les corps ont été reconstitués, la vie est dedans. Et puis, là, c'est autre chose, il est parlé de tombeaux. Il est parlé de tombeaux. Ils ont repris vie, et c'est vrai qu'ils étaient dans cet éparpillé, dans cet empire babylonien, mais à un moment donné, on voit que même le Seigneur va réveiller l'esprit de Cyrus et il va ordonner au peuple d'Israël de pouvoir retourner dans son territoire. Parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui s'est fait, il y a une vie qui est là, mais ils se considèrent, eux, comme captifs. C'est l'image de ces tombeaux, captifs de cet empire babylonien. Oui, ils sont en vie, mais captifs. Mais Dieu va les libérer totalement. Alléluia. Le Seigneur est celui qui est appelé le grand libérateur. Il est celui qui nous libère de toutes nos entraves. Il nous libère de tout ce qui nous empêche pleinement de rentrer en possession de tout ce que Dieu a prévu pour nous. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. Merci Jésus parce que toi seul es monté sur la croix. Toi seul es celui qui apporte la résurrection, car tu es la résurrection et la vie, et qui nous fait sortir de nos tombeaux, qui nous fait sortir de ce qui nous tient. Il nous libère, il nous délivre, que son nom soit glorifié. Et ça, c'est la main de Dieu qui le fait. C'est la main de Dieu qui le fait. Dieu les en fera sortir et il nous en fait sortir. Puissions-nous prendre cela comme une promesse de Dieu pour chacun d'entre nous par rapport à ce que nous pouvons vivre. Le Seigneur est celui qui a toutes les solutions entre ses mains et nous voulons lui faire pleinement confiance. À lui seul soit toute la gloire. Amen.